Bonjour, c'est Tony Moreno, vous êtes chez BioWare et vous écoutez le Star Wars Universe Show.
You should all consider yourselves to be in my power.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Star Wars Universe Show. Cette émission sera consacrée à The Old Republic, puisque nous avons eu la chance d'interviewer deux personnes travaillant chez BioWare, messieurs Emmanuel Luzinski et Antonio Moreno. Dans cette première partie de l'émission, nous verrons quel est leur rôle chez BioWare. Nous dresserons aussi un petit bilan du jeu quelques mois après son lancement, et nous parlerons des possibilités sociales du jeu. Dans la seconde partie, nous aborderons les questions d'environnement, de gameplay, ainsi que les phases de jeu spatial, un peu d'histoire et de scénario, et des questions d'actualité liées à l'E3. Mais tout de suite, la première partie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Ashlak,
salut.
Emmanuel Luzinski,
très bien.
Antonio Moreno,
bonjour.
Et donc nous allons parler un petit peu de The Old Republic. Emmanuel, vous êtes lead designer chez BioWare.
À peu près. J'ai été l'associate lead designer, ce qui est une petite, un tout petit peu différent du lead designer, pendant les deux dernières années du développement du projet. Je suis maintenant le technical design director, donc le directeur du design technique sur The Old Republic.
Et alors, ça consiste en quoi comme métier ?
Ah, bonne question. On a une heure là, c'est bien. Plusieurs choses. D'une part, je suis la personne qui vraiment fait le lien entre la programmation et puis les équipes de design. Donc, bien regarder que tout ce que l'on demande en tant que designer, en tant que concepteur, ne coûte pas trop cher au niveau programmation, parce qu'il faut bien, on a beaucoup de ressources, mais il faut bien les gérer. Et puis, ayez un sens. On a beaucoup d'équipes de design. On a le design des mondes, le design des habilités, des pouvoirs, etc. Donc, chaque designer a des demandes un peu différentes. Il est important de bien les regrouper, bien être sûr que ça marche bien. Qu'un des groupes de design ne demande pas toute la programmation pendant 3 mois, ça ne marcherait pas bien. Donc, ça, c'est une de mes fonctions. L'autre, c'est de m'occuper des problèmes en général, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui n'est, au niveau qualité n'est pas tout à fait ce qu'on aimerait, j'ai tendance à créer des équipes pour s'occuper d'un problème particulier. Soit créer des équipes, soit je rejoins l'équipe existante pour voir si les problèmes viennent de la culture dans l'équipe, si ça vient des problèmes techniques à résoudre dans les outils, etc. Par exemple, pendant quelques mois, je me suis beaucoup occupé des problèmes de bugs, donc de problèmes dans les scénarios de haut niveau, ce qu'on fait donc à la fin du jeu, ce qu'on appelle des flashpoints ou des opérations. Donc, ces scénarios qui demandent beaucoup de joueurs qui se coordinent. Il y avait quelques bugs, donc c'était une des choses qu'on voulait regarder. Aujourd'hui, je travaille sur des prototypes secrets dont je ne parle pas, mais enfin, ça fait aussi partie de ma fonction où, quand tout va plus ou moins bien, regarder également ce qu'on peut faire avec notre moteur ou qu'est-ce qu'on peut demander. Donc, faire des prototypes pour essayer de prouver de nouvelles choses qui seraient intéressantes d'avoir dans le jeu.
D'accord. Antonio, vous êtes Community Manager. Même question, ça correspond à quoi ?
Alors oui, je suis en charge de l'équipe communautaire chez BioWare Irlande, qui est un détachement en fait du studio BioWare Austin. Donc mon travail tout simplement, c'est de m'occuper de la communauté et d'une équipe qui s'occupe elle-même de la communauté francophone. On s'assure que les intérêts de la communauté sont amenés comme il se doit auprès des développeurs et donc des manuels aussi. Et on fait aussi le travail inverse aussi, c'est-à-dire qu'on amène ce que les développeurs font à la communauté afin de leur fournir des informations sur le nouveau contenu et tous ces projets dont Emmanuel parlait aussi. D'accord. Donc on a un petit peu la voix de la communauté pour le studio. Et on est la voix du studio pour la communauté.
Ok. Alors, à quoi ça ressemble une journée typique pour quelqu'un qui travaille chez BioWare ?
Bon, je réponds. Personnellement, j'essaie de ne regarder les emails que que très peu, parce que sinon on pourrait passer toute la journée. Donc la première chose au début début de la journée, regarder un peu les emails, puis aussi à la fin de la soirée. Mais ensuite, ça dépend beaucoup de la phase de développement dans laquelle on est. Si on est à quelques jours de sortir une nouvelle update, une nouvelle patch ou autre, il va y avoir beaucoup de tests. Donc, vraiment se mettre dans la peau des joueurs et essayer le jeu de la même façon qu'ils le font pour bien s'assurer que tout est à la qualité que l'on veut. Sinon, si on est un peu plus loin d'une date de lancement, pas mal de travail technique. Donc, on s'assoit, on lance les outils de développement du jeu et puis on continue ce qu'on avait fait la veille. Donc, et puis, bien entendu, un certain nombre de meetings, on essaye de les garder au minimum. Sinon, encore une fois, on passerait sa journée dans les meetings. Mais généralement, on en a une ou deux par jour, disons, une demi-heure pour bien faire le point de ce qui se passe en ce moment.
D'accord. Moi, c'est l'inverse. C'est beaucoup le nez dans les emails, puisqu'on est on est une équipe qui véhicule beaucoup de messages et qu'on doit toujours être, comment on dit en français, être à jour de tout ce qui se passe. Et on essaie justement de, pour moi en tout cas, c'est un suivi constant de l'information en interne et en externe. Et aussi comment véhiculer tous ces messages pour la communauté. Donc c'est beaucoup beaucoup d'écriture, beaucoup de souvent j'aime dire que finalement les outils principaux d'un community manager c'est son papier et son stylo parce qu'il y a beaucoup de choses à noter, il y a beaucoup de choses à rédiger donc voilà, c'est beaucoup de mails et beaucoup de rédaction, beaucoup de contenu éditorial, beaucoup de contenu sur les forums et beaucoup de ce qu'on appelle le reporting, ce qui consiste à collecter les informations ou les avis, les retours des joueurs, les mettre sur un petit document qu'on va pouvoir amener aux développeurs, qui vont pouvoir lire facilement. Ils vont pas passer 3 heures à lire 24 pages parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais justement, mettre l'accent, mettre le point sur sur une petite phrase, voilà ce que les joueurs pensent de ceci, voilà comment les joueurs pensent qu'on pourrait l'améliorer, et ça part chez les développeurs, dans les mains des développeurs, qui eux-mêmes nous donnent un retour, et on le poste assez régulièrement dans ces sessions aussi de Q&A, donc questions-réponses en fait, où on collecte donc les questions des joueurs, on pose les questions aux développeurs, les développeurs répondent, et on amène ces réponses aux joueurs pour maintenir un échange constant entre notre base de joueurs et nos développeurs, qui est très important, selon moi.
Pour un peu ajouter à ma réponse, quand même pas mal de temps passé personnellement à me balader dans le studio pour m'arrêter auprès des stations des différents développeurs pour un peu voir ce qu'ils font cette journée, s'il y a quelque chose qui les bloque ou si justement il y a des réponses à faire à des questions d'Antonio. Donc il y a une partie bon, assez technique où on est sur notre clavier et puis on travaille, mais il y a aussi beaucoup de discussions informelles. Par exemple, là aujourd'hui, mon déjeuner, c'était avec Daniel Erickson pour parler un peu de problèmes de design et puis de choses pour l'avenir. Donc la discussion de face à face reste quand même très importante pendant toute la journée. Ce que je n'aime pas, c'est les grands meetings où on est tous assis autour d'une table et puis ça prend une demi-heure et finalement pas grand-chose n'est accompli.
Je suis d'accord avec toi, ça arrive de temps en temps hein, qu'on ait des meetings un petit peu longs.
Voilà. Donc faut éviter.
Voilà.
D'accord. Ça tombe bien parce que la question suivante, c'était qu'est-ce qui ne vous plaît pas trop dans votre métier et au contraire, qu'est-ce que vous aimez bien dedans?
Bien, c'est facile. Alors bon, je vais faire peine à Antonio. Lire les forums est pénible. Parce qu'en fait, mais c'est normal, les gens se vont sur les forums quand ils ont des problèmes, quand il y a quelque chose qu'ils n'apprécient pas trop. Donc il y a un certain bias, c'est un peu poussé vers le côté négatif. Et puis bon, nous, avoir des gens qui ne sont pas contents, ça fait peine toujours. Surtout quand c'est des choses sur lesquelles on a travaillé longtemps. Bon, enfin bon. Par contre, l'inverse est vrai quand on va sur des réunions genre E3, enfin des grands meetings, comme on appelle ça en français,
Convention?
des conventions, voilà, merci. Parce que là, au contraire, on a tendance à voir des joueurs qui apprécient beaucoup le jeu et qui prennent peine de se déplacer pour venir nous parler. Et donc on a le bias inverse, où là on n'a que des gens qui adorent le jeu, où tout se passe super bien, ils sont très 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 excités. Donc ça nous donne un peu deux visions un peu fausses de l'état du jeu. Un peu trop négatif, naturellement, et l'autre un peu trop positif. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours, quand quelqu'un s'approche et nous serre la main en disant merci, merci de d'avoir fait ce jeu, c'est quand même assez agréable. Par contre, quand quelqu'un prenne un système qu'on vient de développer, ils ne sont pas très, très heureux avec, ça blesse un peu, mais bon, ça fait partie du métier.
C'est vrai.
Et toi, Antonio?
Les forums, j'aime bien, forcément.
Forcément.
Ce que j'aime pas, c'est ces longs meetings que j'évite finalement. C'est-à-dire que généralement, je réponds par « je viendrai peut-être, si j'ai le temps ». Parce que on travaille beaucoup sur l'efficacité de ce qu'on peut produire, ce qu'on peut faire. Si un meeting dure trop longtemps, on perd une journée et c'est pas très agréable. Après, s'il y a bien une chose que j'aime pas, et je pense que ça répondra à l'une des pré-questions quand on se préparait, c'est je déteste la cantine chez BioWare Irlande, que je trouve pas très très bonne. Sinon, c'est tout. Je crois que le reste, c'est vraiment très agréable de bosser au sein de BioWare. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me posent problème, mis à part cette cantine.
C'est pas si mal la cantine en Irlande.
J'ai un peu de mal, hein. Ils mettent beaucoup de sauce, beaucoup de... Ils sont améliorés, je leur accorde ce point-là.
Alors, est-ce que vous jouez à Thor tous les deux?
Oui, bien sûr.
Oui.
En tant que joueur, je veux dire, hein, pas juste pour le développement.
Tout à fait, on s'est donné quand même un certain nombre de buts, c'est que de faire un peu jouer toutes les personnes qui travaillent sur le jeu, que ce soit les programmeurs, les artistes, etc. Parce que, bon, un, ça leur donne une meilleure vision des problèmes que les joueurs peuvent avoir, ou de la façon d'améliorer certaines choses. Et deux, ça leur permet vraiment, on peut communiquer bien mieux. Donc c'est très positif. Mais surtout, c'est surtout pour les programmeurs, où, quand ils voient un bug dont ils sont responsables, quand ils le voient en tant que joueurs, et quand ils voient la façon dont ça impacte les autres joueurs qui sont avec eux, ça a tendance à bien les motiver. Donc ça nous permet d'avoir des bugs fixés, enfin corrigés beaucoup plus rapidement. Et puis bon, l'autre but, c'était que donc on joue beaucoup au jeu, mais qu'on joue de façon complètement anonyme et sans aucun pouvoir spécial, pour vraiment avoir la même impression que les autres joueurs.
D'accord. Et sur quelle classe vous jouez ?
Je suis encore en train de travailler sur mon trooper, mon soldat. J'ai un peu mon guerrier Sif. J'ai un inquisiteur au niveau maximum qui fait pas grand chose en ce moment, qui fait du crafting. Mais en ce moment, je continue avec mon Sonda, que je joue de façon un peu différente. Ça fait quelques années que je joue à Thor, c'est bien avant que le jeu soit sorti. Donc j'ai une vision un peu différente, plutôt des jeux similaires aux joueurs qui nous ont rejoints dès le début et qui ont peut-être déjà parcouru les planètes quelques fois. Donc c'est aussi c'est quelque chose d'important, puisque ces joueurs vétérans sont très importants pour nous. Et j'ai un peu la même vision que du jeu.
Et Antonio ?
Ben, je pense que c'est très, très similaire comme réponse. Il y a un désir de jouer au jeu de façon anonyme, et parce qu'il y a aussi... Pour nous, c'est un peu différent, puisqu'on n'est pas, on développe pas le jeu, donc il y a ce côté un petit peu fan aussi qui fait qu'on veut jouer en tant que fan ou en tant que joueur à Star Wars The Old Republic. Et puis, comme on n'a justement pas ce côté, le côté développeur, on n'a pas cette vision technique et approfondie du jeu, il faut quand même qu'on comprenne le jeu, qu'on voit un petit peu de quoi les joueurs parlent. S'ils nous parlent d'une opération avec plusieurs joueurs qui vont terrasser tel ou tel boss, monstre final, qu'on comprenne un petit peu de quoi ils parlent, parce que sinon... Pour ajouter un petit peu à la crédibilité aussi et renforcer notre dialogue avec les joueurs, c'est important qu'on connaisse le jeu, non pas qu'en tant que fan, mais aussi qu'on fasse un petit peu de recherche. C'est pareil, on joue sans pouvoir, pour vraiment avoir cette saveur intacte. cette expérience de joueur et non pas une expérience plus. Pas une expérience qui serait un petit peu biaisée, une vision qui serait un peu biaisée parce qu'on a tous les pouvoirs, on peut tout faire. Faut aussi qu'on puisse expérimenter la difficulté, qu'on puisse voir qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui est pas facile à faire, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, pourquoi les joueurs aiment ceci ou cela, et qu'on puisse aussi faire un petit peu, avoir ce côté un petit peu empathique avec les joueurs. Ça aide vachement à se connecter avec la communauté et être aussi anonyme, comme disait Emmanuel. Et être proche d'eux. Donc il y a ce côté-là.
Ok, on va passer à une partie plus sur le jeu lui-même et son entrée sur le marché du MMORPG. C'est un jeu qui a fait un bon succès en arrivant. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de joueurs?
Je pense que oui, on est satisfait du nombre de joueurs.
Oui, tout à fait.
Ouais.
On peut toujours en avoir plus.
Toujours, oui.
Mais c'est quand même donc un nombre de joueurs que la concurrence, enfin la plupart de nos concurrents nous envient. Il y a quelques années, ça aurait été quelque chose d'impensable. Enfin, le marché a bien augmenté, le marché a bien grandi. C'est un nombre de joueurs qui est conséquent, mais c'est vrai que notre structure actuelle de nos serveurs et autres peut un peu diffuser trop ce nombre de joueurs sur trop de serveurs. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais c'est un bon nombre, mais c'est vrai qu'on peut mieux organiser ces joueurs.
D'accord. Il y a eu un certain nombre de départs ces derniers mois. À votre avis, pourquoi est-ce que des joueurs ont arrêté de jouer?
Il y a un schéma qui se reproduit assez régulièrement dans tout type de MMORPG, c'est-à-dire que on a ce côté un petit peu explosion au début, un petit peu comme le Big Bang, je prends des parallèles d'astronomie. Il y a un petit peu ce côté Big Bang, il y a tout le monde qui attend le jeu, qui vient, qui rejoint le jeu et tout ça. Et puis il y a ce côté un petit peu battement de cœur, on va voir la communauté qui va un petit peu se réduire pour se retrouver avec son cœur de joueur. Et qui va, à partir de ce cœur de joueur, réaugmenter, puisque ça va retoucher une autre partie de joueurs, les amis des amis qui reviennent, qui ont envie de voir, ou des nouveaux joueurs qui vont se rattacher à ces joueurs-là. Donc il y a une espèce de. C'est commun de voir ce genre de battement de cœur, on va dire, effet battement de cœur d'une communauté. Je pense que c'est lié justement à cette espèce de boom, et maintenant la communauté se pose un peu et repart sur cette base un peu on va dire un peu plus solide les liens entre les joueurs sont plus solides puisque maintenant les joueurs se connaissent et ont construit quelque chose et voilà quoi. Je pense que c'est ce qu'on observe en général. Alors, je sais
D'accord.
pas si tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel, là-dessus.
Oui, non, mais c'est vrai. Il y a aussi il y a différents types de joueurs. Tous les joueurs ne veulent pas la même chose d'un jeu. On a quand même, je pense, beaucoup bénéficié des joueurs qui, plutôt genre simples joueurs, qui aimaient bien Mass Effect ou Dragon Age, ou enfin les autres jeux de BioWare. Et eux, peut-être que jouer une ou deux classes, bien prendre l'histoire, ça leur suffit. Et d'autres joueurs préfèrent le côté social, d'être avec d'autres joueurs, de pouvoir faire des grandes aventures ensemble, comme dans nos opérations, etc. Et pour cela, pour ce type de joueurs, on continue à beaucoup travailler sur nos outils, enfin les outils que les joueurs ont dans le jeu, pour qu'ils puissent mieux se retrouver, mieux se coordonner, etc. Donc, certains de ces joueurs ont peut-être été déçus par les outils qu'on avait et on pense les voir revenir avec les nouveaux patchs qu'on va sortir, 1.3 qui a beaucoup de ces outils. Donc, c'est vraiment, il y a un rythme, comme disait Antonio, mais il y a aussi différents joueurs qui ont différentes attentes. On ne peut pas faire un jeu qui plaise à tous les joueurs pour une durée de vie limitée, malheureusement.
D'accord. On parlait des joueurs. Quels sont les types de joueurs qui sont visés par le jeu? C'est plus du grand public ou ça s'adressait essentiellement aux fans?
On avait trois types de joueurs qu'on a visés dès le début, dès la conception première du jeu. On avait des fans de BioWare, des jeux de BioWare, donc on pense les connaître, peut-être pas, mais enfin on pense savoir un peu ce qu'ils aiment, donc une histoire bien conçue, bien personnelle, Etc. Donc vraiment un côté BioWare. On avait des fans de Star Wars et puis des fans de jeux massivement multiplayer, des fans de MMO. Et, quand on a conçu le jeu, on voulait que ce soit pas simplement, disons, un MMO avec un peu de, un petit goût, un petit arrière-goût de BioWare et de Star Wars, ou le contraire, un jeu très BioWare, simple joueur avec des petites un petit goût MMO. On voulait que chacun de ces types de joueurs ait, trouve un jeu complet. Donc les gens de BioWare trouvent un jeu de BioWare complet avec des compagnons, des romances, enfin des aventures amoureuses, etc. Donc tout ce qu'on trouve dans nos autres jeux. Mais on voulait également que les gens, les fans de Star Wars, c'est vraiment toute l'aventure Star Wars. C'est par exemple si le joueur essaye d'être un guerrier Jedi, qu'il ait toute l'aventure de devenir, d'être un Padawan, de devenir un chevalier, de construire son sabre laser, etc., etc. Et finalement, bien entendu, on voulait que les joueurs de MMO aient un MMO avec toutes les fonctions modernes de ce genre. Donc, c'était nos trois types de joueurs clés qu'on a visés.
Ok. Et vous avez une idée actuellement de quel public réagit le mieux, lesquels sont plus durs à accrocher
Bonne question. Je me demande comment on peut mesurer ça. On mesure beaucoup, beaucoup de choses, comme des toutes petites choses que, ou d'autres. Je ne sais pas si ce serait très facile. On voit un peu, encore une fois, parmi les forums, parmi les retours des joueurs, les gens qui aiment beaucoup les MMO, il y a deux, trois fonctions qu'ils aimeraient beaucoup avoir. Et dans les patchs que l'on a fait depuis la sortie du jeu, on a bien essayé de répondre à leur attente. Les fans de BioWare en général semblent être très contents parce que non seulement ils ont un jeu de BioWare, mais ils en ont beaucoup plus que ça, puisqu'on a beaucoup d'histoires assez poussées et très différentes les unes des autres. Donc on peut jouer le jeu. Par exemple, si on joue, on prend un chasseur de primes d'un côté, puis de l'autre côté, on fait un guerrier Jedi, ça va être deux aventures complètement différentes avec rien en commun. Donc bon. Pour une petite somme, les joueurs de BioWare peuvent avoir accès à beaucoup de contenu de qualité qui les rappelle un peu nos autres jeux. Et Star Wars, encore une fois, on a eu beaucoup de bons retours. Les gens nous disent qu'on a vraiment bien recréé un monde de Star Wars. Donc, mais ce serait intéressant d'essayer de faire des mesures un peu plus précises. Mais heureusement, je n'ai pas ces données.
D'accord. On parlait de bons retours. Il y a eu aussi quelques mauvais retours au moment de la sortie du patch 1.2 parce qu'une partie du contenu a été annulée. Est-ce que c'est arrivé à cause de changements de stratégie marketing ou il y a eu des problèmes en cours de route pour arriver à ce patch?
C'est plutôt des problèmes en cours de route. Il y a des systèmes que l'on conçoit sur papier qui sont pas mal. Ensuite, on les teste un peu par eux-mêmes pendant leur cours de développement et ils sont toujours bien. Et puis, c'est vraiment au dernier moment qu'on les met dans le jeu lui-même sans aucune triche. Donc, ils sont bien intégrés. Et dans nos tests, on s'aperçoit qu'il va y avoir des comportements de joueurs qu'on n'a pas forcément prévu, qui vont faire que ces systèmes ne vont pas marcher. Donc, dans le cas, par exemple, des ranked warzone, donc des combats joueur contre joueur où on obtient un rang particulier, si on gagne ou si on perd, le rang monte ou le rang descend. On s'est bien aperçu que la façon dont c'était conçu et implémenté n'allait finalement pas vraiment bien marcher ou serait pas optimum comme expérience. Donc je vais élaborer, mais on a pensé qu'il était mieux de en fait repousser ce système plutôt que de sortir dans son état où on savait bien qu'il y aurait des problèmes un peu de type social. Alors donc le problème principal, c'est qu'on laissait les joueurs se mettre en compétition avec des ranks, donc ranked Warzone, de façon individuelle. Et le problème principal, c'est que ces joueurs, leur rang, qui est quelque chose de très intime, de très personnel, une statistique sur laquelle ils travaillent beaucoup, leur rang va monter ou descendre basé sur la performance de joueurs qu'ils ne connaissent même pas, des gens qui sont mis aléatoirement avec eux. On s'est aperçu rapidement qu'on pouvait faire des comportements assez négatifs des joueurs qui, par exemple, sabotagent d'autres joueurs juste pour le plaisir de faire.
Oui, quand même.
On a préféré repasser ça tout au travail, repasser un peu, remettre ça enfin, retravailler. Je cherchais des images qu'on utilisait en français, mais je ne m'en rappelle plus. On a bien retravaillé pour que le système de rank ne soit que pour des équipes complètes. Donc, c'est des joueurs qui se connaissent, qui créent une équipe de 8 joueurs, donc une équipe complète, et qui ensemble vont s'affronter avec d'autres équipes déjà faites de 8 joueurs, donc des équipes compétentes. Si ça se passe mal avec mes coéquipiers, au moins je les connais. On peut en discuter après, on peut essayer d'arranger ça pour le prochain coup, etc. Donc un comportement social complètement différent d'être avec des gens aléatoirement, donc des étrangers. Par
D'accord.
contre, pour que ça marche bien, il nous a fallu retravailler un certain nombre de choses. Par exemple, il y avait un bug, un truc qui ne marchait pas bien, où chaque fois qu'on allait dans des warzones, dans ces zones de combat joueur contre joueur, l'équipe était dissoute. Et donc, ça ne marchait pas bien avec ce concept d'avoir une équipe déjà faite. Et à chaque fois, il fallait reconstruire. Donc, on a travaillé là-dessus. Également, il est clair que c'est quelque chose, puisque ça demande des équipes de 8 joueurs déjà faites, ça demande des serveurs avec beaucoup de joueurs pour que ça marche. Ça allait aussi dans notre perspective d'attendre qu'on ait la technologie pour que les joueurs puissent un peu se regrouper, quitter des serveurs qui naturellement ont perdu la population, pour y revenir, et donc pour obtenir des serveurs beaucoup plus pleins où ce genre d'activité va arriver et va fonctionner bien mieux.
D'accord. On reviendra sur les serveurs un peu plus tard.
Tout à fait.
D'abord, on va partir un peu sur le côté social et jeu de rôle du jeu.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance de la communauté de joueurs, que ce soit dans le jeu ou sur le forum
Tout à fait. Malheureusement, je peux avoir qu'une vision très restreinte, par exemple dans le jeu, sur les deux serveurs sur lesquels je suis, où c'est une bonne communauté. Bon, j'entends parler des gens qui disent sur ce serveur, le chat, donc les textes un peu qui défilent ne sont pas toujours de très bonne saveur. Bon. Mais dans mes serveurs, moi, je trouve que en fait, les joueurs sont même assez aident bien, expliquent des choses. Moi, par exemple, je n'arrivais pas à trouver un des personnages non joueurs dans le jeu, ce qui est amusant quand même, puisque c'est un peu le jeu que j'ai conçu. Mais donc, d'autres joueurs sont venus m'aider, etc. Donc, ça, c'est des aspects très sympathiques. Au niveau communautaire en dehors du jeu, enfin Antonio peut en parler mieux, ça dépend desquelles communautés. Il y en a pas mal sur le web finalement qui se forment et certaines sont très sympas encore une fois, avec beaucoup d'entraide entre les joueurs. Et puis ce que j'apprécie beaucoup, c'est les joueurs qui organisent des événements entre des événements de PVP, donc joueurs contre joueurs, ou des événements sociaux. Et donc ça c'est toujours sympa.
Événement d'ailleurs qu'on essaiera de mettre assez rapidement en lumière, pas que les événements en jeu, mais d'autres choses, c'est-à-dire les nouvelles de la communauté, un petit peu ce qui se passe au sein de notre communauté sur les forums, pour que les nouveaux joueurs ou que les gens qui n'aiment pas forcément lire tous les forums puissent voir l'essentiel de ce qu'il y a à voir sur les forums et puissent se connecter un peu plus facilement aux joueurs. C'est donc du nouveau contenu éditorial qui arrivera rapidement du côté francophone. Mais pour ce qui est du reste, je seconde Emmanuel. Il y a une communauté qui est très engagée et très passionnée. Et on apprécie ça, que ce soit au niveau des forums ou des fansites. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux, et notamment avec vous, justement,
Plaisir
Star Wars
partagé.
Universe. On aime pouvoir soutenir les initiatives des joueurs parce que finalement les joueurs apportent beaucoup d'idées, beaucoup de choses sympathiques, beaucoup de discussions. Et des fois, si je me souviens bien, Emmanuel, il y a une structure qui nous a fait parvenir des retours qui ont permis de déceler un bug en particulier.
Oui, enfin, c'est quelque chose que j'apprécie toujours beaucoup. Par exemple, ça, c'était surtout sur les bugs dans nos opérations et nos flashpoints. Donc, encore une fois, ces scénarios qui demandent 4 ou 8 ou 16 joueurs. C'est des scénarios, enfin, c'est des systèmes très compliqués. On les teste énormément en interne, mais bien entendu, quand on met un million de personnes dessus, ils ont tendance à trouver d'autres problèmes qui étaient plus difficiles à trouver. Mais maintenant, ils essayent quand même toujours de nous donner des vidéos donc de ces bugs. C'est-à-dire que quand ça leur arrive, ils enregistrent un peu ce qui s'est passé. Et puis, dès qu'on a, nous, ces vidéos, il est beaucoup plus rapide de trouver toutes les conditions qui ont amené à ce bug, et donc de corriger ça beaucoup plus rapidement. Et donc, on est rentré en contact avec un certain nombre de guildes pour bien leur donner ce message que si eux, ils trouvent quelque chose qui les impacte beaucoup, et s'ils pouvaient nous donner une vidéo, on apprécierait beaucoup. Et de temps en temps, en effet, soit directement, soit par l'interface de Antonio, on reçoit des emails très bien faits, très bien conçus, avec une bonne liste des événements et puis des vidéos de ce qui s'est passé. Ça nous permet en effet de corriger ça très rapidement. Et ça s'est passé quelques fois déjà.
Ok. Alors, plus sur l'aspect social à l'intérieur du jeu, qu'est-ce qui est prévu au niveau des guildes et aussi pour les personnages eux-mêmes pour ajouter du social, pour avoir une histoire, pour avoir l'héritage par exemple, ce genre de choses?
Bon, on continue à améliorer notre système de guildes qui était adéquat, mais peut-être pas toujours aussi bonne que ce qu'elles auraient pu être. Au fil des patchs, donc des grandes updates du jeu, on a rajouté des fonctions telles que la banque des guildes et autres. On va continuer dans ce sens-là. Une des choses que nous avons en priorité, c'est de travailler sur le système où une guilde a une relation spéciale avec une autre guilde, puisqu'on sait très bien que par les systèmes d'héritage, on pousse un peu les gens à découvrir les deux côtés de l'histoire, le côté des Sith et le côté de la République. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont une guilde, disons, du côté de la République, et puis ils ont créé un peu une guilde de miroir de l'autre côté pour leur autre personnage qu'ils ont. Et pour pouvoir se retrouver. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de systèmes qui permettent à ces deux guildes de miroir de se communiquer, donc de pouvoir communiquer avec des personnages joués par ses amis, mais qui sont de l'autre côté, dans l'autre faction. Donc, ce système de pouvoir connecter deux guildes est quelque chose sur lequel on travaille. Je ne me rappelle plus si c'est quand ça va sortir, ou si ça sort sur 1.3 ou 1.4 ou autre. Enfin, c'est quelque chose qui est. On travaille dessus. Et donc, encore une fois, on continue un peu non seulement à développer des fonctions qui sont nécessaires pour tout MMO, genre les banques pour les guildes, qui leur permettent de mettre en commun leurs ressources, etc. Mais également des systèmes qui sont nécessaires pour notre jeu, puisque notre jeu est différent des autres. On a des systèmes d'héritage et autres, et qui donc ont un sens particulier pour notre jeu. Et on a des prototypes et puis des plans, etc. Encore une fois, de systèmes un peu plus particuliers à Star Wars The Old Republic. Donc un peu plus axé vers le fait qu'on a une guerre galactique, que c'est Star Wars, c'est la guerre des étoiles, il y a des vaisseaux spatiaux, etc. Donc on a beaucoup de systèmes qu'on va commencer à introduire, qui vont être moins essayer de rattraper ce que font d'autres jeux, et plus être vraiment se démarquer et puis jouer sur nos forces. Non plus.
D'accord. À un moment, on avait parlé d'un vaisseau de guilde, je crois.
Par exemple, ça serait encore une fois quelque chose qui a un sens dans notre univers, mais je veux pas juste sortir un vaisseau de guilde pour que ce soit une espèce de guild hall, si vous voulez, juste un endroit où. Ça sert à rien, en fait, c'est juste une salle où les joueurs se réunissent. Ce serait sympa, mais on peut faire beaucoup mieux quand même comme concept.
D'ailleurs, ce que tu avais expliqué autour de. Enfin, au Guild Tumit, moi c'est ça, au Guild Tumit, tu avais expliqué aux grosses guildes qui étaient venues nous voir. Je me souviens que tu avais dit que finalement, au niveau du concept, c'était plutôt simple, c'était juste une boîte où on mettait des gens dedans. Après, au niveau de ce que les joueurs attendaient, c'est vrai qu'ils vont attendre beaucoup plus, genre avoir ces emblèmes, ces machins, peut-être voir leur progression ou des trucs. Il y a pas mal d'idées qui sont d'ailleurs sur votre Wall of Crazy, je crois,
Oui.
Wall of Crazy, qui est le mur qui contient de tonnes de post-it avec plein d'idées superbes, qui est Austin. C'est vrai que c'est une idée intéressante et je serais peut-être l'un des premiers à dire oui, c'est génial, un vaisseau de guilde. C'est vrai que derrière aussi, mettre en place toutes ces mécaniques, ça vous prendra du temps, je pense, si vous décidez de le développer à terme, quoi.
Voilà, on va essayer donc d'être un peu plus que de juste concept basique, donc de juste une salle dans l'espace. Mais bon, c'est vrai que c'est comme le système d'héritage, par exemple, c'est quelque chose que l'on peut introduire et puis ensuite introduire d'autres systèmes qui renforcent un peu le concept. Donc on n'est pas forcé de sortir tout en même temps non plus.
Ok. Toujours dans le social, dans Star Wars, il y a pas mal de jeux, que ce soit enfin, dans l'univers Star Wars, on nous parle de Sabacc, de Padzak. Dans l'épisode 4, on voit Chewbacca et C-3PO jouer au Dejarik. Il y a des courses de modules, des courses de soupe dans KOTOR.
Oui.
Est-ce que des jeux de ce type-là vont être introduits dans The Old Republic?
Éventuellement, absolument.
Je te vois déjà sourire de ton côté.
Oui, non. C'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé là-dessus le mois dernier. Mais bon, sur des prototypes, sur des idées, sur des machins, il est possible qu'on soit déjà au travail sur un certain nombre. Mais bon, c'est toujours des histoires on a un certain nombre de ressources. Quelle est leur meilleure utilisation? Et j'ai récemment redirigé donc des ressources qui étaient un peu qui étaient destinées à un certain nombre de ces mini-jeux sur quelque chose que je considère plus important, mais bon, je peux pas en parler. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire, quelque chose qui a été d'ailleurs conçu depuis le tout début du design du jeu. C'est bien pour ça qu'il y a des tables de jeux un peu partout dans les vaisseaux spatiaux et puis dans les casinos et autres. Mais c'est toujours une histoire de priorité. Et il y a parfois des choses qui semblent plus importantes. Mais bon, ça va venir.
Tu n'échappes jamais à cette question, je crois.
Ça va
Ouais.
venir, mais alors, dans un délai de plusieurs mois, plusieurs années.
Je préfère pas en parler.
D'accord.
Parce que si on dit bientôt, ça perd beaucoup de son. Ça perd beaucoup de sa valeur.
Et si on
Mais
dit une date et qu'on ne le sort pas cette date, la communauté crie sur nous. Donc
tout à fait, non.
voilà.
Mais il faut bien savoir que si on n'y travaille pas, c'est qu'on travaille sur quelque chose d'encore plus important et qui a plus d'impact sur le joueur. Et il y a un certain nombre de stealth systems qui sortiront dans certains temps, qui, je pense, vont faire bien plaisir aux joueurs. Mais bon, on verra bien.
Un petit indice, quelque chose sur
Non.
ce... Non.
On aurait
Bon,
essayé.
j'aurais essayé.
Oui, faut bien essayer, des fois que.
Vous parliez des tables dans les casinos qui pourront être utilisées plus tard. Actuellement, il y a déjà des jetpacks, notamment, et
Oui.
plein d'autres gadgets dans le jeu. Est-ce qu'il sera possible de se déplacer en hauteur?
Non.
De voler?
Oui, de
Non,
voler.
c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire depuis le tout début du jeu. Et bon, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé City of Heroes, etc., où on peut voler, sauter, se téléporter. Mais quand on fait quelque chose comme ça, il faut concevoir l'ensemble des mondes, de tous les paysages, etc., pour le supporter. Et c'est beaucoup de travail. Alors, d'un côté, c'est très agréable pour les joueurs, mais c'est un surcroît de travail énorme. Donc, très tôt dans la conception du jeu, on a un peu limité les dégâts en disant, bon, bah, on peut sauter jusqu'à cette hauteur et jamais plus haut. Et ce n'est pas une décision que l'on peut changer facilement. Il faudrait un peu faire genre ce qu'ils ont fait dans Cataclysme, où il y avait une bonne raison pour laquelle on ne pouvait pas voler dans les mondes de départ sur World of Warcraft, parce qu'ils n'avaient jamais été conçus pour le vol.
Ouais, je me souviens de leur communauté qui a commencé à se plaindre sur l'Outre-Terre, en fait, où on pouvait voler, mais on ne pouvait pas
Voilà.
voler sur Azeroth. Et
Pour les
il y a eu
mêmes
la...
problèmes. parce que il faut développer dès le début pour le supporter. Et bon, on aurait pu, c'est vrai que c'est toujours agréable de rêver, de dire, ben dans notre jeu, on va pouvoir tout faire, mais également, on a des budgets, et ça, c'était quelque chose qui était facile de... Bon, c'est une décision assez facile. C'est dommage pour les joueurs, mais d'un autre côté, bon, il faut bien faire des... Faire des décisions difficiles comme ça, c'est un peu ce qu'on fait, enfin, c'est un peu notre boulot. Donc, non, déplacement en hauteur, non, ou alors ça serait dans des endroits très spécifiques, mais bon, ça perd un peu de son intérêt.
D'accord. Et c'est sur cette réponse que nous conclurons cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie concernant des questions d'environnement de jeu, de gameplay, l'effet spatial, l'histoire et l'actualité de l'E3. A bientôt pour la deuxième partie de cette émission consacrée à The Old Republic. Don't fail me again.